chronique pour la paix, c'est tout de suite sur Judaïque FM avec une invitée, Yaël Ifrah, conseillère parlementaire à la Knesset, experte sur les sujets économiques. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, chers auditeurs, et bonjour Lise. Bonjour. Alors, Yaël Ifrah, vous êtes avec nous ?
Oui.
Alors, très bien. Alors, Yaël Ifrah, si je ne me trompe pas, l'État d'Israël fonctionne sans budget depuis 2018. Hein. Est-ce que cela inquiète l'économiste, la conseillère parlementaire et la citoyenne que vous êtes ? Pourquoi ce pays n'a-t-il pas de nouveau budget ? Et ce, malgré l'épidémie de coronavirus qui laisse plein d'entreprises et de personnes en grande difficulté. Comment cela est-ce possible ?
Alors d'abord, ce n'est pas tout à fait exact. L'État d'Israël fonctionne sans budget depuis à peu près un an, puisque le dernier budget qui a été voté, certes, a été voté en octobre 2018, mais il concernait l'année 2019. Donc il y avait un budget 2019. Le problème, c'est que à partir du moment où on est rentré dans ce tourbillon de campagne électorale, à partir du mois d'avril 2019, où effectivement, on était déjà un peu en retard pour la préparation du budget 2019, et bien après, pour le budget 2020, pardon, et bien après, le travail budgétaire n'a jamais été fait dans les mois d'avril, mai, juin, juillet, etc., 2019. Puis on a eu une deuxième, puis une troisième campagne, et le budget 2020 n'a jamais été passé. Effectivement, on est maintenant d'un fin décembre 2020, et le budget 2020 n'existe pas. Plus grave encore, le budget 2021 n'est pas prêt non plus. Enfin, on dit qu'il est prêt, mais il n'est pas prêt d'être voté. Donc, la règle en Israël est un petit peu rigide. C'est un système parlementaire très différent de celui de la France. Et donc, en fait, si le budget n'est pas voté avant la fin de l'année fiscale, en principe, la Knesset doit se dissoudre. Alors là, la Knesset, elle s'est en fait déjà dissoute trois fois. Donc, ce n'était pas tellement le problème du budget qui a gêné, mais le problème des élections. Par contre, là, si le 23 décembre, on n'a pas passé le budget 2021, eh bien, la Knesset se dissoudra automatiquement. Après, au-delà de cela, quelles sont les conséquences sur la vie des
citoyens
ordinaires ?
C'est la question, c'est ce que je voulais vous poser, mais vous ne m'avez pas laissé le temps. Ce que je vais vous demander,
voilà,
c'est comment il est possible que pour un pays moderne comme Israël, il n'y ait pas de budget ? Est-ce que cela entraîne beaucoup de conséquences négatives, de gênes ? Est-ce que ça a un impact sur la vie des gens, la vie des institutions, la vie des corps intermédiaires ? Est-ce que c'est grave, docteur ?
Oui, c'est grave. Il n'y a pas de budget. Il y a ce qu'on appelle un budget de continuité. C'est-à-dire qu'en l'absence de nouveaux budgets votés, on est obligé, donc c'est de facto le comptable général de l'État qui devient une sorte de ministre des Finances bis et qui administre le budget de l'État sur la base du dernier budget voté par la Knesset, donc celui dont on a parlé de 2019, en attribuant à chaque mois un douzième du budget précédent. Donc effectivement, c'est très problématique pour deux raisons principales. La première raison, c'est que la population d'Israël croît d'environ 2% tous les ans. Hein. C'est une population très dynamique. Le taux de natalité le plus élevé par femme du monde est développé, plus de 3 enfants par femme. Donc cela n'est pas pris en compte puisqu'on se base toujours sur un budget qui était basé sur la population de 2018-2019. On est déjà fin
2020.
D'accord,
oui.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en Israël, la structure du budget est faite de telle façon que ce qu'on appelle la base budgétaire, c'est-à-dire les dépenses fixes sur lesquelles se base ce fameux comptable général pour calculer son 12e mensuel, cette base est très étroite et ne comprend pas tous les budgets dits complémentaires qui sont rajoutés au cours de l'année et qui généralement sont les budgets sociaux, les budgets éducatifs, les budgets de complément pour parer à des urgences. Ce qui fait qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, ça fait maintenant un an et demi que certaines associations...
Je remarque que j'ai raison.
Oui, que les programmes éducatifs complémentaires ne sont plus financés. Des centaines d'associations sont en train de mettre la clé sous la porte. Des milliers d'enfants ne reçoivent plus des compléments des programmes de suivi scolaire, de soutien, d'aide psychologique. Tout cela ne font pas partie de la base budgétaire et ne sont donc plus financés.
D'accord, donc beaucoup de difficultés. Yaël Ifrah, la question qui va fâcher là, qui est responsable de ce blocage du vote du budget ? Est-ce que c'est Netanyahou, le Premier ministre ? Est-ce que c'est Gantz, le ministre de la Défense ? Est-ce que c'est l'opposition à la Knesset ? Expliquez-nous, qui est-ce qui bloque ?
Écoutez, c'est un peu compliqué d'expliquer en quelques mots ce qui nous a mené à cette situation assez tragique, mais on peut dire que oui, le principal responsable est le Premier ministre Netanyahou, qui a entre les mains la clé de la coalition, puisqu'il est Premier ministre, et la possibilité de faire passer le budget, puisque le ministre des Finances, dès que Moshe Kahlon du parti Kulanu, qui d'ailleurs s'était allié au Likoud après les élections d'avril 2019, est parti, Israël Katz l'a remplacé. Israël Katz est un pilier du Likoud. C'est donc le Likoud qui a les clés du ministère des Finances et la possibilité de faire passer le budget. Effectivement, cette non-passation du budget est une instrumentalisation des plus cyniques et véritablement des plus dramatiques qu'on ait vues dans le système politique israélien, prise en otage de tout le pays pour des raisons politiques. C'est aussi avec, on va le dire, la collaboration du Parti Bleu Blanc qui est rentré dans le gouvernement tout en sachant très bien que ce problème de budget se poserait. Une incapacité des hommes politiques israéliens à prendre leurs responsabilités, un jeu véritablement, mais quand je dis cynique, c'est, le mot ne couvre même pas, c'est un jeu d'une cruauté extrême puisque les citoyens en payent le prix au quotidien, mais aussi on voit ici les limites d'un pays où il n'y a pas de constitution, où on peut changer tous les quatre matins les lois socles de l'État, ce qu'on appelle les 13 lois socles de l'État qui forment une sorte de constitution et qui gèrent effectivement les lois du gouvernement, de la Knesset et du budget. Cette loi budgétaire a déjà été modifiée 3 fois en un an avec une majorité simple. On a ici un problème de démocratie, on a un problème d'institution et on a un très très gros problème de la responsabilité des hommes politiques qui refusent de gérer Israël comme un pays moderne et le gère d'une certaine façon comme une république bananière.
Israël, alors Yael Ifra, là, vous parlez, on se rend compte que la situation est grave, vous parliez de cynisme, d'irresponsabilité, mais vous n'êtes pas la seule d'ailleurs. Comment est-ce possible qu'une problématique économique comme celle du budget se transforme en crise politique et que cette crise politique conduise à envisager de nouvelles élections? Je rappelle que le gouvernement actuel est en place depuis moins d'un an et que 2 autres élections ont eu lieu récemment et successivement. C'est incroyable. Comment on en est arrivé là?
Non, c'est pas exactement ça. Il y a une crise politique très grave en Israël depuis maintenant plus d'un an et demi, qui est liée au statut juridique du chef de l'État, enfin du Premier ministre Netanyahou, qui est mis en examen pour 3 chefs d'accusation graves et pour lequel aucune loi ne prévoit qu'ils doivent démissionner, alors que dans la plupart des pays occidentaux démocratiques, évidemment, un Premier ministre mis en examen aurait démissionné depuis longtemps. Et donc, la crise politique est aussi une crise de leadership. C'est une crise d'un pays qui est coupé en deux exactement à la moitié, où avec 3 campagnes électorales, on n'a toujours pas réussi à avoir un gouvernement stable. C'est une crise de ce système de coalition qui montre largement ses limites. Mais Israël n'est pas le seul pays dans ce cas. Souvenez-vous de la Belgique, de l'Espagne, de pays où il y a des élections à répétition en raison d'une incapacité à monter une coalition. Ici, le budget est un prétexte. C'est un prétexte facile, puisque, comme je l'ai dit, il se trouve qu'en Israël, si la loi budgétaire ne passe pas, la Knesset est dissoute. Si vous voulez, si ça avait été autre chose, si ça avait été, je ne sais pas moi, le budget de la défense, ça aurait également été pris en otage de la même façon. C'est un prétexte, mais ce prétexte nous coûte très cher. Il coûte très cher aux citoyens d'Israël et il fait qu'aujourd'hui, Israël se trouve dans une situation impossible, puisqu'on ne sait absolument pas si des quatrièmes élections vont résoudre le problème.
Yael Ifra, j'ai écouté Lise Gutmann qui brûle de vous poser une question.
Je voulais savoir quelle solution pourrait éventuellement être envisagée.
Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Tant qu'on ne change pas le système de la coalition, tant qu'on ne change pas le fait que ces lois socles de l'État peuvent être modifiées autant qu'on veut, tant qu'on ne change pas le système de coalition qui fait que les partis doivent se mettre d'accord pour élire le Premier ministre, tant qu'on ne change pas le seuil d'éligibilité qui se situe seulement à 4 mandats, on restera toujours dans un système de chantage, de pression et de groupe de pression. Il faut simplement que l'ère Netanyahou se termine, cela prendra peut-être encore une, deux, je ne sais pas, peut-être même encore trois campagnes électorales, mais ça finira par se terminer. Il faut que quelqu'un remplisse ce vide, puisque vous le savez, la nature et les systèmes politiques ont horreur du vide, que ce soit Gideon Saar, que ce soit un nouveau parti, ça finira par se déterminer. Netanyahou finira par partir et on espère qu'Israël tournera cette page épouvantable de son histoire politique.
Yael Ifra, est-ce que vous pensez que la pandémie, le coronavirus, est un espèce d'accélérateur de l'histoire ? Est-ce que du fait qu'il n'y ait pas de budget, ça rend encore plus difficile la situation des citoyens israéliens ? Soit les chefs d'entreprise, soit les salariés, les employés, les fonctionnaires, du fait qu'il n'y ait pas de budget ?
Écoutez, pas tellement, de façon assez étonnante. On pourrait s'attendre quand même à ce que les mouvements sociaux ne soient pas des mouvements politiques, mais des mouvements économiques, que la détresse économique très grande qu'on voit dans le pays, qui a été attestée encore par le rapport sur la pauvreté de l'association La Tête, qui est sorti la semaine dernière, qui a montré que la classe moyenne s'est rétractée de 15%, qu'il y a près de 500 000 foyers qui sont dans la pauvreté économique, on aurait pu s'attendre à ce que cette pression soit plus grande. Le fait est que tout a été escamoté derrière la crise politique, que malgré tout, on peut dire que la crise du corona a été gérée correctement par l'État d'Israël, qui a déployé des filets de sécurité, certes pas parfaits, mais quand même on a dépensé beaucoup d'argent, on a rallongé les indemnités. Ce qu'on espère, c'est qu'en termes d'accélérateur de changement économique, de passage d'Israël dans le 21e siècle du travail, de statut des indépendants, de nouvelles entreprises, de high-tech, il y aura une accélération. Mais en l'occurrence, on peut dire que finalement, ces deux crises se mènent de front, même si le corona oblige Netanyahou à être beaucoup plus en frontal et finalement il exploite pas mal cette situation afin de pouvoir se tirer la couverture à lui, ce qui est une méthode qu'il utilise quasiment systématiquement. Mais je dirais que finalement ce sont deux lignes parallèles et que même s'il n'y avait pas eu le corona, la crise politique serait la même. Et s'il n'y avait pas eu cette crise politique, eh bien je pense que la crise économique aurait été gérée plus ou moins de la même façon, peut-être même un peu moins généreusement, puisqu'il n'y a pas des élections tous les trois mois.
Ok, eh ben écoutez, Yael Ifra, nous vous remercions beaucoup de ces informations importantes. L'émission se termine et je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. À bientôt, j'espère, sur notre antenne.
Et merci à
vous. C'est moi qui vous remercie.
Merci, Uzi Meyerson. Et on vous retrouve dans deux semaines. Au revoir, merci.